pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Aujourd'hui sera question de la Turquie. Dimanche 28 mai 2023, M. Recep Tayyip Erdogan a remporté le second tour des élections présidentielles face au candidat de l'opposition, M. Kemal Kılıçdaroğlu. Le chef de l'État sortant, déjà au pouvoir depuis 20 ans en Turquie. Comme le dénonçait récemment le Conseil démocratique kurde en France, dans son communiqué du 29 mai 2023, en parlant de la force d'engagement tacite des grandes puissances internationales qui semblent soutenir la consolidation du pouvoir de l'AKP d'Erdogan en Turquie et de ses acteurs mondiaux dans leur quête d'intérêts géopolitiques et géostratégiques qui cautionnent par leur silence un plan d'annexion et d'occupation du Kurdistan du Sud, donc Kurdistan irakien, et du Rojava, le Kurdistan syrien. Dans ce contexte, quels vont être les éventuels effets du second tour des élections présidentielles du 28 mai dernier sur la situation des droits humains, particulièrement à l'égard des groupes défavorisés et persécutés en Turquie? Et dans cette perspective, nous proposons l'écoute d'une partie de la rencontre qui se tenait le jeudi 1er juin 2023 au Dissident Club dans le 9e arrondissement de Paris. Et nous entendrons les interventions de Anaïs Lefort, avocate en droit des étrangers, Simon Süleymani, journaliste kurde exilé, et Rumi Ünal, ancien fonctionnaire exilé. Bonne écoute.
Le sujet d'aujourd'hui, c'est les élections récentes en Turquie et ses probables effets sur les situations des droits humains et notamment sur les violations qui sont survenues régulièrement jusqu'à ce jour. Depuis dernier temps, la Turquie a fait beaucoup parler en ce qui concerne les séismes, les tremblements de terre, la situation économique et notamment concernant les réfugiés syriens. Les élections ont des effets potentiels sur l'Europe et sur la France particulièrement. Concernant les élections, vous savez, on a Recep Tayyip Erdogan qui était le premier ministre pendant longtemps et qui a été mandaté comme président de la République depuis 2017. Il est en pouvoir depuis 2003, ça fait plus de 20 ans. Et il a été réélu pour la troisième fois en tant que président. Lors de la période avant les élections, il y a eu deux camps en Turquie qui montrent que la polarisation de la société est très grave. Un côté, il y avait Erdogan, et l'autre côté, il y avait toute l'opposition qui comptait l'extrême droite, les nationalistes, les Kurdes, et les démocrates, je dirais. Du coup, c'était soit Erdogan, soit les autres. C'était en quelque sorte un référendum pour l'avenir de la Turquie. Vous connaissez déjà la politique d'Erdogan, la politique qu'il mène depuis 20 ans, ses aspirations islamistes, nationalistes, etc. L'autre partie, l'opposition qui s'est réunie derrière un candidat, n'était pas si démocrates, je dirais. Ils avaient aussi des aspirations nationalistes, voire même fascistes et xénophobes, notamment à l'égard des réfugiés syriens. Le candidat d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, avait promis que s'il était élu, il allait renvoyer les 4 millions syriennes en Syrie. Et du coup, dans ce contexte-là, on a eu les élections et le gagnant de ces élections, c'était Erdoğan, je dirais malheureusement, puisque même si on n'était pas très optimiste, on gardait toujours l'espoir qu'il serait parti un jour. Il y a eu 2 tours d'élections présidentielles, mais à part cela, on a eu aussi des élections parlementaires. En raison de la polarisation de la société, il y a eu vraiment une mobilisation historique concernant le taux de participation. C'était plus de 80%. Et selon les résultats, Erdoğan il a gagné le second tour avec un pourcentage de 52%. Et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Parlement, sur 600 sièges, le gouvernement, le bloc du gouvernement d'Erdoğan ont eu 330 sièges. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ces circonstances ? Certains disent que même s'il a été réélu, Erdoğan il serait plus favorable aux aspirations démocratiques, il va restaurer la justice, etc. Pour répondre à la question, on a invité plusieurs intervenants qui sont des experts de la Turquie, je dirais, et qui ont des vécus personnels concernant la Turquie. Je vous laisse vous présenter. D'abord, Anaïs.
Je suis Anaïs Lefort, je suis avocate, donc j'ai pas un parcours de sang et culturel turc, mais j'y suis venue par mon travail auprès des demandeurs d'asile qui voient leur demande rejetée. Donc moi, je les accompagne auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et au fur et à mesure des années, j'étais amenée à travailler sur les différentes problématiques qui amènent les exilés turcs à venir jusqu'à nous demander l'asile. Donc on va pouvoir un peu aussi évoquer ça, parce qu'à travers la politique d'Erdoğan, on a aussi les conséquences aujourd'hui ici d'exilés et puis aussi de changements. Ce qui est intéressant d'analyser, à travers l'asile, c'est les motifs des personnes qui viennent ici, ce qui nous donne une bonne cartographie de l'évolution et de l'aggravation de la persécution politique en général et de manière aussi générale du recul des droits humains, du recul de l'état de droit. Donc j'essaierai de vous donner un petit peu des illustrations à travers mes dossiers, mes clients et leur vécu, ce qu'on peut aujourd'hui voir et surtout ce pourquoi on peut s'inquiéter aussi par la suite et notamment du fait de ces dernières élections.
Je m'appelle Rumi Una, je suis actuellement un réfugié politique ici en France. Je suis venu en France il y a 5 ans. Avant, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères en Turquie pendant 10 ans. Je suis ici parce que je voudrais faire un témoignage concernant mon histoire, ce que j'ai vécu en Turquie, parce que je pense que cela montre la situation des droits de l'homme en Turquie.
Alors merci pour vos présentations. Dans un premier temps, on va aborder la situation des droits humains dans un contexte général pour donner une idée générale. Et puis on va parler des effets des élections, notamment pour les persécutés qui se trouvent en Turquie, et aussi les effets possibles sur l'Europe et sur la France. À cet égard, j'aimerais te poser la question des motifs de demande d'asile des ressortissants turcs qui se trouvent sur le sol français. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour quelles raisons ils demandent l'asile ?
Oui, juste pour vous donner aussi un chiffre, pour vous donner un peu ce que ça représente la demande d'asile des ressortissants turcs en France. Aujourd'hui, il y a 16 000 réfugiés turcs en France, officiellement. Et c'est une demande qui est croissante vraiment de manière exponentielle. En 2021, Le bilan, c'était de 5248 demandes, ce qui était déjà une augmentation de 45%. Et en 2022, les chiffres, c'est 8500. Donc vous voyez que c'est vraiment une demande qui grandit et qui représente bien justement les taux qui se resserrent de manière générale sur l'opposition ou toute forme d'opposition ou jugée comme telle. Sur les motifs, ils sont de plusieurs ordres. Déjà pour les réfugiés, vous avez une petite distinction entre les réfugiés et les protégés subsidiaires. Les réfugiés, ça va inclure notamment tous les motifs politiques, les LGBT, et les protégés subsidiaires, ça va davantage concerner les conflits familiaux, etc., les histoires de mœurs. Donc il y a aussi une part quand même importante qu'il ne faut pas sous-estimer de femmes qui sont protégées, beaucoup sur ce fondement-là. 50% des femmes à peu près sont protégées sur la protection subsidiaire, donc généralement dans un contexte de violence. Alors la différence, elle est d'abord juridique, puisqu'on a une convention de Genève qui est limitative sur les motifs pour lesquels on peut être reconnu réfugié. Et donc on a créé une catégorie en considérant que ce n'était pas suffisant pour inclure un certain nombre de personnes qui pourtant pouvaient prétendre à une protection. Donc on a créé la protection subsidiaire, qui est une modalité européenne. Et la différence va juste varier sur le nombre d'années. Donc, selon les pays, c'est variable. En France, c'est 4 ans. Le statut de réfugié, c'est 10 ans. Mais sinon, en termes de droits, en France, en tous les cas, c'est équivalent. Vous avez le droit de faire venir votre famille. Vous avez les mêmes droits que des réfugiés. On parle d'asile politique. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément politique. Une femme qui fuit un mariage forcé dans un pays où il y a, on va dire, une coutume au mariage forcé, on considère qu'elle fait partie d'un groupe social. Les homosexuels, on considère qu'ils font partie d'un groupe social quand ils sont largement persécutés, etc. Donc le groupe social, c'est pas vraiment politique au sens où on l'entend habituellement, ça fait quand même partie des réfugiés. Donc on va dire, pour faire très simple, surtout si je reviens sur la question de la Turquie, ceux qui vont tomber dans la catégorie de la protection subsidiaire, ça va être dans le cadre de conflits familiaux, de vendetta, de violences conjugales, etc. Donc eux, ils ne sont pas majoritaires dans la demande turque en général. La majorité, ça va être pour un motif politique au sens où on l'entend le plus strict. La question des LGBT, etc., c'est extrêmement minoritaire. Et très récemment, on a créé justement un groupe social en Turquie en considérant qu'effectivement, compte tenu à la fois des autorités, de l'appréciation du gouvernement sur la question et donc aussi ce qui infuse au sein de la population, on considère que les homosexuels sont de manière générale à risque en Turquie. Mais si je dois quand même me focaliser sur la demande la plus importante, ça reste une demande politique ou un motif politique imputé, c'est-à-dire que soit on va estimer que la personne a un engagement politique réel, soit on lui impute des opinions politiques et c'est un motif de persécution. Vous avez plusieurs catégories, les personnes qui, de manière générale, dans la demande kurde, qui est très souvent différente de la demande turque. La demande kurde, ça va être beaucoup des personnes qui sont sympathisants ou affiliées directement au grand parti kurde que constitue le HDP, mais c'est pas forcément directement des militants au sens carté, officiel, etc. C'est aussi la spécificité de la répression qui va vers les engagés politiques, ça peut être juste des sympathisants. Vous avez tous ceux qui aussi tombent dans la catégorie de ceux qu'on considère comme ayant aidé d'une manière ou d'une autre une organisation terroriste. Il y a deux organisations terroristes principales, enfin jugées comme telles en Turquie, le PKK, que le gouvernement associe au HDP. Ça serait la branche armée du parti politique. Le mouvement Hizmet, qui est connu plus sous le terme de mouvement guléniste, qui est aussi jugé comme une organisation terroriste. Vous avez beaucoup de demandes sur ces deux fondements. Vous avez aussi une demande qui évolue beaucoup sur la question de l'expression sur les réseaux sociaux, de tout ce qu'on va mettre dans la catégorie de la critique du gouvernement, qui tombe très vite dans l'insulte aux institutions, l'insulte au gouvernement, donc vous avez beaucoup de poursuites. Et sinon, vous avez la partie aussi aide, pas être membre de l'organisation terroriste, mais l'aider de manière matérielle.
Vous parlez de réfugiés, c'est au départ de la Turquie, ou c'est vous parlez des réfugiés en fonction du pays? C'est des réfugiés qui vont où?
Alors là, je parle exclusivement des ressortissants turcs qui viennent en France demander l'asile en raison des persécutions qu'ils subissent en Turquie.
Pour donner des illustrations concrètes, on a invité Rumi, qui a été poursuivi pour l'appartenance au mouvement Gulen, qui est appelé comme fêteux par le gouvernement. Et on a aussi invité notre ami journaliste Simon, qui a eu aussi des soucis judiciaires pour son engagement pour la cause kurde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous êtes poursuivi et vous pouvez nous partager votre parcours?
En fait, c'est le destin des Kurdes en Turquie, en Iran, en Syrie, entre Irak, bien sûr. Si vous êtes kurde et si vous demandez votre droit national, vous êtes toujours accusé de faire propagande de terrorisme ou bien d'être terroriste dans le pays. En Turquie, c'est un siècle, les Kurdes demandent leur statut, leur indépendance ou bien leur droit natal, mais malheureusement, ils ont toujours traité comme terroristes et avec violence. Mais moi, comme un journaliste et cinéaste kurde en Turquie, j'étais, pendant mon travail, pendant 7 ans, j'étais toujours harcelé, menacé, en travaillant dans le cadre du média comme un journaliste.
Dans quel média?
C'était une télévision kurde basée au Kurdistan irakien, mais je travaillais à Ankara. Et bien sûr, à la frontière de Syrie aussi, pendant la guerre civile en Syrie, et la guerre contre le Daesh avec les guérillas kurdes et les combattants kurdes. Et j'étais condamné de faire propagande de terrorisme parce que j'ai préparé 17 documentaires films sur droits de l'homme, sur les Kurdes, les immigrants, les opprimés, les opposants, bien sûr, les gauchistes, les alévis et les autres sectes et minorités en Turquie. Il m'a accusé de faire propagande de terrorisme. Et en fait, j'ai fait mon métier comme un journaliste. J'étais emprisonné après cette tentative coup d'État. J'étais emprisonné en 2017, mais beaucoup de mes amis, je connais les journalistes, membres du mouvement guléniste aussi, les Kurdes, directement les travailleurs du média du PKK aussi, ils ont tout emprisonné tout de suite après cette tentative coup d'État en Turquie. Moi aussi, j'étais emprisonné pendant 16 mois sans procès. Mais après 16 mois, il m'a libéré avec une décision prévisoire. Et donc, j'ai quitté le pays après cette décision. Après, j'étais libéré. Et moi, comme beaucoup d'immigrants et réfugiés en Turquie, les Kurdes, les Gulenistes et les gauchistes aussi, j'ai traversé la rivière entre la Turquie et le Grèce aussi. Evros. J'ai nagé Evros et j'ai marché tous les pays balkans, 11 pays balkans, pendant 13 mois. Et après, je suis arrivé en France et j'ai fait mon asile ici. Ça fait 2 ans que je suis ici. En fait, je suis diplômé en langue anglaise en Turquie, comme professeur de langue anglaise, mais j'ai fait mon master sur cinéma. Notre destin avec les immigrants, spécialement les opprimés de régime d'Erdogan, nous sommes tous mêmes. Nous traversons même route, on vit même chose dans notre vie pendant réfugiés ou bien pendant exil ici en France ou bien un autre pays européen. Et je continue ma lutte contre le dictatorat en Turquie. De nos jours aussi, avec les élections, avec la propagande, avec les événements, de sensibiliser les gens, les Européens, spécialement les Européens qui soutiennent avec le gouvernement turc, qui a opprimé des dizaines de mille gens en Turquie, emprisonné des dizaines de mille activistes, politiciens, bien sûr les journalistes aussi. Juste pendant deux ans, après tentative coup d'État par exemple, ils ont emprisonné 7100 personnes membres de mouvements de Gulenistes. Mais bien sûr, ça continue toujours pour les Kurdes.
Par qui tu as été harcelé? Est-ce que c'est la police, des soutiens du régime? Et comment tu as été harcelé?
Oui. En fait, si vous portez un micro d'une télévision kurde, vous êtes harcelé, censuré par la police, par la communauté, par les gens. Mais moi, si vous parlez devant un micro, un camarade, dans la rue aussi, c'est très dangereux. Les gens aussi interviennent et ils vous empêchent de parler dans votre langue. Mais c'est maintenant systématique. Après, Erdogan, il a pris tout le pouvoir dans son main. Il a contrôlé tout. Il a fermé toutes les institutions du média, des opposants, des gulenistes, des kurdes, des alevis, des gauchistes. Maintenant, la police, les Bekchi aussi, les gardiens dans la rue, ils aussi contrôlent les gens, ils contrôlent les numéros de citoyenneté, ils vous harcelent, vous touchent physiquement. Et on connaît beaucoup de gens qui sont, leurs mains, leurs pieds, ils ont cassé par la police ou bien les gardiens.
La tentative de coup d'État en 2016, c'était un événement tournant. Et je crois que c'était le cas aussi pour Oumi. Et on peut entendre ton témoignage.
En fait, oui, comme Jean a dit, je représente les adhérents du mouvement Gulen, je peux dire, les victimes du régime qui ont des liens avec le mouvement Gulen. Oui, bien sûr, la tentative de coup d'État, c'était un point de tournant pour la Turquie, mais je crois que la Turquie n'a jamais été un pays totalement démocratique. Depuis longtemps, surtout les Kurdes, la communauté kurde, ont subi des violations des droits de l'homme depuis longtemps. Et pour nous, ça a commencé après 2013, avec les opérations de corruption contre le gouvernement AKP en 2013. Erdogan, à cette époque-là, il était le premier ministre. Il nous a accusé d'être terroristes en fait. Il nous a décrit comme un groupe terroriste à cette époque-là. Il n'y avait pas de coup d'État à cette époque-là. Il n'y avait rien, mais il a commencé à nous définir comme des terroristes en fait. Après le tentative de coup d'État, c'est devenu définitif en fait pour nous, pour toutes les personnes en Turquie, des femmes, des jeunes, en fait, des personnes âgées. Toutes les personnes qui ont des liens, même un petit lien, avec le mouvement Gulen, nous sommes tous devenus des terroristes d'après le régime, d'après le gouvernement Erdogan. Pour moi, en fait, je travaillais dans le ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate, en fait. J'ai travaillé dans plusieurs pays, comme la Corée du Sud, la Bulgarie, l'Italie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le ministère des Affaires étrangères. En fait, juste après la tentative de coup d'État, j'ai été suspendu d'abord, et après j'ai été viré, j'ai été licencié avec un décret-loi au mois de septembre en 2016. Et surtout, j'ai été emprisonné, en fait. À part ça, au mois d'août, juste après un mois de la tentative de coup d'État, j'ai été emprisonné et je suis resté pendant à peu presque deux ans en prison sans aucun acte d'accusation, en fait. Et j'ai attendu environ 20 mois pour savoir... C'était quoi le motif de mon arrestation? Et c'était une détention provisoire en fait. J'ai attendu le procès et après le tribunal, après le procès, j'ai été libéré sous contrôle judiciaire. J'ai été accusé de quoi en fait? Je vais expliquer ça parce que c'est un exemple. Il y a plusieurs cas comme ça. Et, en fait, mon père, il est très proche de M. Gulen en fait. Il est médecin privé de M. Gulen. Il est toujours avec lui. Actuellement, il vit avec ma mère, il vit aux États-Unis. Il est toujours dans des conseils médicaux à M. Gulen. Et bien sûr, il est mon père et j'ai des communications téléphoniques avec lui. Et j'ai été accusé juste d'avoir des appels téléphoniques avec mon père. Il n'y a pas de contenu. Ils ont une liste, en fait, liste d'appels. dans cette data, vous avez des appels téléphoniques, ça dure 2 minutes, 3 minutes, c'est comme ça, mais c'est très normal. Mais c'était la seule accusation contre moi. Et je suis resté pendant 2 ans en prison. En fait, il y a plusieurs cas comme ça. Les gens, les gulenistes, ils ont accusé d'avoir un compte bancaire sur la banque Asie, banque Asia en fait. C'est une banque totalement légale en fait, qui fonctionne sous les lois en vigueur en Turquie à cette époque-là. Ou un autre motif, d'utiliser une application de communication comme WhatsApp en fait, comme Signal WhatsApp. Elle s'appelle Bylock. Si vous téléchargez cette application-là et si vous avez utilisé cette application-là, vous devenez directement terroriste en fait. Et un autre motif, si vous êtes inscrit dans un syndicat.
En même temps, M. Fethullah Gülen, il a été au pouvoir avec M. Erdogan à un moment. Ça a posé quand même quelques questions.
Oui. En fait, c'est pas une vraie description de cette coalition-là en fait, parce que le mouvement Gülen, c'est pas un parti politique en fait, c'est un mouvement social en Turquie. Bien sûr, au début du pouvoir d'Erdogan, dans le début des années 2000, il y avait des objectifs similaires entre les deux camps-là et il y avait une sorte de coalition, c'est vrai. Mais à cette époque-là, les libéraux de la Turquie, les démocrates, les personnes, les groupes démocrates de la Turquie, les Européens, les politiciens social-démocrates en Europe, ils ont tous soutenu Erdogan à cette époque-là. Parce que à cette époque-là, il y avait une suppression de la part de l'armée, je peux dire en fait. Parce qu'on a vécu plusieurs coups d'État en Turquie. Et à cette époque-là, l'armée était très puissante et ils étaient le gardien du régime, entre guillemets. Et la Turquie, à cette époque-là, n'était pas un pays démocratique, totalement démocratique. Et sous ces conditions-là, le mouvement Gülen, les démocrates, les libéraux en Turquie, et peut-être une partie des Kurdes aussi, au début des années 2000, ils ont soutenu Erdogan.
Dans ce cadre-là, de la question du rapprochement avec l'Union européenne de manière légale, hein, il y avait un vrai chemin vers l'Union européenne, il y a un ensemble de réformes qui ont été mises en œuvre de manière générale pour améliorer le processus démocratique, les institutions judiciaires, tout ce qui fait qu'on peut estimer qu'on est dans un état de droit. Et le mouvement Gülen a accompagné ça parce que c'était les intérêts du mouvement, c'était son approche idéologique. Donc il y a eu une proximité, en plus d'être un mouvement qui reste un mouvement religieux, donc il y avait quand même une proximité aussi avec les racines de l'AKP. Jusqu'à 2010, on peut dire qu'il y a une proximité. De là à dire qu'il y a un partage de pouvoir, ça reste très excessif. Mais la rupture, elle se fait quand même depuis assez longtemps. 2010 et 2013, elle est définitive.
Şera emrin adında gır kera
Emrin adında gır kera
Leçiya denge çakalı dolu neval dengda İro cenge cenge şera emrin adında gır kera
Emrin adında gır kera
Emtiri serçiyane girilane
girilane
Belayı her demine girilane
girilane
Emtiri serçiyane girilane
girilane
Belayı her demine girilane
girilane Havvayine kurne dare Vecci her carını serkare Emrin adın hovu hara
Derba girila duvara
Havvayine kurne dare Vecci her carını serkare Emrin adın hovu hara
Derba girila duvara
Ser hıldane parastına kurdistane sonda meser keftine
sonda meser keftine
dembe maber fayadane rehber ev ser hıldane parastına kurdistane destane sonda me serkeftine
sonda me serkeftine
هم تیری سر چیانه گریلانه
گریلان
دوایی هر دمینه گریلانه
گریلان
هم تیری سر چیانه گریلانه
گریلان
دوایی هر دمینه گریلانه
گریلان هم خواهی نکر میداره وکی هر جارن سرکاره امرین آدن و فوهاره
در با گریلا دجواره
هم خواهی نکر میداره هر جرل سرکاره امرین آدم و بواره
در با گریلا دشواره
Poursuivons l'écoute de la rencontre qui se tenait le 1er juin 2023 au Dissident Club à Paris. Et il fut question, suite aux élections présidentielles du 28 mai en Turquie, de la situation des droits humains, particulièrement à l'égard des groupes défavorisés et persécutés.
Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les motifs des autorités turques pour opprimer les dissidents ou pour les cibler ?
Alors j'ai justement des chiffres qui sont assez parlants déjà pour vous montrer le volume. Après j'aborderai les motifs. Mais les deux sont intéressants pour vous montrer à la fois l'ampleur de la répression et montrer qui on vise. On ne vise pas, parce que nous, terrorisme, c'est assez simple. Hein. On a quelques procès dans l'année, ça dure des mois, c'est médiatisé, les gens sont sous escorte policière. Voilà, on parle de terroristes qui ont envisagé des attentats ou qui ont commis des attentats. La question de la qualification juridique pour la propagande terroriste ou pour l'appartenance à un mouvement terroriste en Turquie, ça n'a rien à voir. Déjà, au niveau des chiffres, alors je suis désolée, je n'ai pas les chiffres complets. PKK, FETÖ. Alors FETÖ, c'est le mouvement Gülen tel qu'il est appelé par les autorités, c'est-à-dire mouvement terroriste de Fethullah Gülen, pour faire simple. Donc entre 2014, puisque la répression a commencé avant le coup d'État, elle a été vraiment exponentielle à partir du coup d'État, mais il y en a eu quand même avant, entre 2014 et juillet 2022, c'est plus de 676 000 personnes qui ont été poursuivies sur le fait d'appartenir à cette organisation terroriste. Et actuellement, enfin, en tout cas en 2022, il y avait 135 000 personnes qui étaient encore sous enquête. C'est énorme, 135 000 personnes. En 2022 encore, il y avait 117 000 personnes qui étaient condamnées de manière définitive, c'est-à-dire qui avaient passé les différentes juridictions qui avaient une condamnation définitive. Pour vous donner d'autres chiffres qui vous montrent aussi l'ampleur, rien que pour l'année 2021, on a regardé juste avant de faire cette intervention, la question de l'insulte critique du gouvernement, ça a concerné, en termes de condamnation pour l'année 2021, c'était plus de 12 000 personnes qui étaient en procès, et 12 000 condamnés et 48 000 en instruction. Donc c'est aussi des chiffres conséquents. Pour la propagande terroriste, donc l'infraction qui t'a visée, c'est 13 000 personnes. Donc la propagande terroriste, si je dois faire quelque chose, par exemple la comparaison avec la France, ça va être quelqu'un qui va relayer, par exemple, la question de l'assassinat de Samuel Paty en disant « bien fait pour lui ce mécréant », en mettant des photos explicites. La personne va être poursuivie pour apologie du terrorisme. Et donc là, ça va être juste le fait de diffuser des informations qui vont pas être favorables au PKK. J'imagine que tu as pas fait un reportage main dans la main avec des guérilleros en train de dire c'est génial la lutte armée dans les montagnes.
En fait, mon sujet c'était sur YPG. Mmh. J'étais à la frontière de Syrie. YPG, c'est une organisation kurde qui a combattu contre le Daesh. Kurdistan syrien, au nord du Syrie aussi. C'était armé par les Européens, par la coalition, par les États-Unis, qui étaient convaincus contre le Daesh, qui a été sauvé les Européens de Daesh aussi. Mais l'État turc, pendant cette guerre civile, ils ont soutenu toujours avec les militants de Daesh. Toutes les militants de Daesh du monde, ils sont venus en Turquie, à Istanbul, après à Gaziantep, à la frontière de Syrie, après avec la surveillance des autorités turques. Ils ont traversé les frontières pour tuer les Kurdes. Et donc, j'ai fait un documentaire là, j'ai dit les militants, les terroristes de Daesh, ils traversent très facilement. Et il m'a dit, si tu fais propagande de terrorisme, tu fais propagande YPG, et tu insultes l'État turc ou quoi. Il y a beaucoup de choses d'accuser quelqu'un comme un terroriste en Turquie parce que les lois ne marchent pas directement.
Pour revenir un peu sur la question des motifs qui sont retenus juridiquement, parce que c'est ça qui est... Moi, c'est l'approche que j'ai quand j'ai des dossiers, puisque souvent, on a des documents judiciaires. Les deux personnes qui sont là ont eu cette spécificité d'être considérées comme terroristes, mais d'être libérées, ce qui montre à quel point c'est une vaste blague. Ils ne sont pas considérés comme dangereux, puisque nous, des terroristes en instance de procès, jamais ils seraient remis en liberté, a priori. En Turquie, c'est des dizaines et de milliers de personnes qui sont remis en liberté, alors que potentiellement, ils savent très bien qu'ils vont se chercher à fuir. Les motifs qui sont retenus, je peux les différencier entre peut-être la question kurde et la question des gulenistes. Pour les Kurdes, ça va être, de manière générale, le soutien aux Kurdes dans leur représentation politique. Donc le HDP, mais comme je vous disais, ce n'est pas forcément des gens qui vont avoir des responsabilités électives ou même des responsabilités militantes importantes, mais des jeunes de 18 ans qui vont tracter, des jeunes de 18 ans qui vont fêter la fête kurde en utilisant des drapeaux, etc. Très vite, ça peut se retourner contre eux. Vous avez la police ou les gendarmes qui débarquent, qui font des perquisitions, et ça va être suffisant pour poursuivre comme membre ou propagande terroriste. Pour les gulenistes, c'en serait drôle si ce n'était pas tragique. En fait, ils ont créé un ensemble de critères juridiques qui sont complètement absurdes, mais qui permettent d'inclure le maximum de personnes. Et en ayant travaillé maintenant depuis plusieurs années sur vraiment les procédures judiciaires, ce que je pense comprendre, mon analyse est la suivante, c'est... En fait, ils ont, par les renseignements, un avis sur telle ou telle personne et ses liens avec le mouvement ou ses liens avec le HDP, etc. Et à partir du moment où ils ont la conviction qu'il a effectivement des liens, ils vont appliquer des critères de preuve pseudo-sûrs. Et c'est pas l'inverse. Normalement, on a des preuves qui vont amener à une culpabilité. En Turquie, c'est tout l'inverse. On dit « il est ça ». Et maintenant, on va créer des motifs pour dire qu'il est ça. Pour vous donner des exemples réels qu'on retrouve dans des décisions judiciaires, de cours d'assises, de cours de cassation, la plus haute autorité judiciaire en Turquie, vous avez par exemple, tu donnais l'exemple de la Banque Asya, donc le fait de détenir un compte, d'avoir détenu un compte avant 2016 dans cette banque, pour certaines personnes, ça va être suffisant pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste et être condamnés à minimum 6 ans de prison. Vous avez un autre exemple, des publications sur les réseaux sociaux de personnes autour d'un plat qui est un plat très souvent préparé et partagé par des membres du mouvement. Et bien, le fait de poster une vidéo en groupe avec ce plat-là, c'est un motif pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste. Le nouveau motif qui est utilisé largement depuis 1 ou 2 ans, c'est le fait d'aider des familles de personnes qui sont poursuivies pour, en tant que terroristes, membres du mouvement. Donc, pour vous donner des exemples très précis, des gens qui vont donner de l'argent à une famille, une femme, des enfants dont le mari est en prison depuis des années, que la femme ne peut pas travailler, voire elle était dans le service public, elle a été renvoyée elle aussi, elle avait parfois fait de la prison, etc. Le fait d'aider financièrement cette personne, le fait d'aider par exemple à payer son avocat, le fait d'aller voir la personne en prison et de lui faciliter la vie en lui donnant de l'argent, etc. Ça peut être considéré comme soit de l'aide, soit être membre du mouvement parce qu'on fait partie d'une organisation. En fait, les profils vont de jeunes qui étaient mineurs au moment du coup d'État. Et ces jeunes-là, ils vont être visés parce qu'ils ont été à un moment dans une institution scolaire du mouvement. les centres de préparation aux examens ou alors les profils les plus sensibles, c'est ceux qui se destinaient à intégrer la police, l'armée, mais c'est des gamins. C'est-à-dire que le moment où ils sont dans ce processus-là, ils ont parfois 12, 13, 14 ans et les autorités vont attendre qu'ils passent les 18 ans pour entamer des poursuites judiciaires. Alors 18 ou 19 ans, et on va leur reprocher parfois uniquement le fait d'avoir été scolarisé 6 mois, 1 an dans une institution qu'on estime être liée au mouvement. Mais à aucun moment on leur reproche par exemple d'avoir essayé d'organiser le coup d'État ou d'imaginer un attentat ou d'essayer de renverser l'ordre constitutionnel. On leur reproche juste d'avoir été dans une institution scolaire en tant que mineur et de faire partie du mouvement et donc d'être terroriste. Et donc ces personnes-là sont condamnées de la même façon à 6 ans, voire plus de prison.
S'il y a eu des mouvements sociaux ces derniers temps, sait-on si par exemple il y a des ouvriers, des syndicalistes qui ont subi la même répression ?
Par exemple, il y a un syndicat des professeurs. Ça s'appelle Eitimsen. Donc, ce syndicat, c'est connu d'être un syndicat des Kurdes, des opposants, des Alevis. Après tentative coup d'État, il a fermé les syndicats. Ils ont viré tous les professeurs fonctionnaires qui sont membres de ce syndicat. Donc, les organisations civiles sont une preuve pour le gouvernement pour virer l'argent ou bien accusé d'être membre d'une organisation terroriste ou bien être contre le gouvernement, l'État turc, ou bien insulter l'État turc. Par exemple, pour le mouvement gulaniste aussi, pour les Kurdes aussi, le gouvernement tout d'abord a préparé la liste et après ils ont fonctionné d'emprisonner les gens. Donc, c'est-à-dire, le régime, ils ont se préparé d'être un vrai régime et contrôler tout, tout d'abord, avant le tentative ou bien les événements, les activités politiques, ils ne sont pas vraies raisons pour être ça. Ils ont se préparé d'être dictatoriaux, contrôler tout l'État et condamner les gens en prison, et forcifier leur statut.
Oui, la question, elle est relative à la peur. Vous disiez tout à l'heure que tout est fait pour intimider, pour faire peur aux gens, enfin que l'emprise se resserre. Est-ce que la peur a été un des facteurs de la réélection d'Erdogan aux élections ? Est-ce que les gens ont peur ou pas encore finalement ? Est-ce qu'il y a une espèce de double réalité qui se crée où les gens sont dans l'autocensure ?
En introduction, tu parlais de la forte polarisation du pays et je pense qu'on ne peut pas mettre dans un même paquet la Turquie. En fait, il y a des gens largement favorables à la politique d'Erdogan et de ceux qui s'allient à lui et qui n'ont pas ce sentiment de peur. Au contraire, ils ont le sentiment de toute puissance parce qu'eux, ils ne sont pas parmi les dissidents et ils n'ont aucune intention de l'être. Donc, au contraire, je pense qu'il y a à la fois un renforcement de la toute puissance et de l'impression d'être dans son bon droit, d'être avec ce fort sentiment nationaliste, etc., qui est hyper entraîné dans les discours qu'on a entendus pendant les élections, etc. Donc c'est aussi un moment, à chaque fois des élections, où tout le monde est chauffé à blanc, c'est là où on entend le pire, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une partie de la population qui est très à l'aise avec cette politique-là, voilà. Et une autre partie, mais une partie qui est... Enfin, on a parlé des gens poursuivis, mais il y a aussi énormément de gens qui sont en clandestinité en Turquie, qui vivent cachés, qui vivent sous une autre identité, et puis il y a tous les exilés. Donc malheureusement, je pense que si aujourd'hui les exilés ou les gens en clandestinité avaient pu voter, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu les mêmes résultats.
La communauté turque en Turquie, ils ont dirigé par les sultans pendant 6 siècles. Mais de nos jours, il demande un sultan très fort qui menace les Européens, qui opprime les autres, par exemple les Kurdes, il accepte les Kurdes non musulmans ou bien gauchistes. Et bien sûr, s'il déclare quelqu'un comme un ennemi de l'État ou bien terroriste, les gens suivent le sultan. Qui était leur rêve pendant un siècle après la déclaration de la République. Donc on peut comprendre ça. La mentalité en Turquie aussi, les gens toujours soutiennent avec Erdogan, ils lui supportent, ils lui suivent. Nous avons déjà vu dans la dernière élection. Donc il faut comprendre la psychologie des gens aussi là, je crois. C'est la psychologie des 6 siècles de l'Empire ottoman.
Il y a cette question en Turquie de la vie chère. Il y a un taux d'inflation assez important. Donc, on peut peut-être imaginer que dans une partie de la population, ça pousse les gens à se dire on peut plus continuer comme ça. Il faut aussi qu'on se fasse entendre.
En fait, oui, bien sûr, il y a une crise économique en Turquie, mais c'est intéressant, c'est bizarre que les villes pauvres en Turquie, les villes qui sont en difficulté financière et économique, ils ont voté pour Erdogan. C'est intéressant. Et les villes riches comme Istanbul, Ankara et les pays industrialisés, développés, ils ont voté pour Kılıçdaroğlu. C'est très intéressant en fait. Ils subissent ces gens-là d'une crise économique. Peut-être ils ont des difficultés comme ça, mais ils votent pour Erdogan. Parce que pour eux, Erdogan, il est en fait au-delà d'un chef politique, leader politique en fait. Il est comme un leader spirituel pour eux. Quoi qu'il fasse en fait, il le soutient en fait. Et pour d'autres partis, en fait la Turquie est polarisée, divisée, et pour l'autre parti, pour 48%, il le déteste en fait. C'est intéressant. Ouais.
On peut donner aussi l'exemple des ondes qui sont frappées par les tremblements de terre. Il y avait 5 villes qui ont été gravement frappées par le séisme. Selon les chiffres officieux, il y avait plus de 800 000 morts. Et selon les chiffres officiels,
il y en avait combien ? Plus de 60%, je crois. C'est ça. À Kahramanmaraş, ils ont obtenu les votes, en fait. Erdogan
il toujours utilise la rhétorique nationaliste et islamiste. Donc quand on regarde la carte de la Turquie, les régions plus religieuses, plus pauvres, lui soutient toujours là. Et les riches, les séculaires, les laïcs, ils ont contre lui. Maintenant, Turquie est divisée en deux, mentalement polarisée, totalement polarisée. Et c'est 50%, donc on peut dire que la paix sociale en Turquie aussi s'est détruite.
J'avais une question sur la juridiction terroriste, c'est-à-dire comment l'échafaudage a été construit, quelles formations politiques l'ont construit, quand. Parce que c'est un outil qui sert allègrement, comme vous l'avez dépeint, pour la répression. Alors comment ça a été construit ?
C'est très facile en Turquie. Juste le gouvernement a besoin d'une police et un procureur pour déclarer un groupe ou bien une personne comme terroriste. Donc,
alors pour eux,
c'est vraiment facile en Turquie.
Tu parles de la qualification ? C'est ça, comment on dit qu'un groupe est terroriste ?
Oui, la construction législative, parce qu'il faut quand même des lois.
En fait, par nature, la législation antiterroriste est susceptible d'être abusée, ce qui est constaté par les organisations internationales depuis des décennies pour la législation turque. Et si on revient sur les personnes qui appliquent cette législation, on peut donner l'exemple des grandes purges qui se sont survenus après la tentative de coup d'État. Imaginons que un tiers de magistrats français se sont vus renvoyés et placés en détention dans un jour. Du coup, dans ce cadre-là, ils ont renvoyé tous les magistrats qui étaient fichés, non loyal du gouvernement, qui étaient opposants. Et du coup, le reste était déjà en peur et ils se sont permis de servir pour le gouvernement, le reste des magistrats. Du coup, avec cette configuration, on a eu plusieurs condamnations, vraiment l'abus de la législation antiterroriste.
Il y a une définition juridique de ce que c'est un groupe terroriste, mais ensuite, comment est-ce que tel ou tel groupe va être défini comme terroriste, ça c'est politique. Donc par exemple le PKK, aujourd'hui la France considère que c'est une organisation terroriste, pour des raisons diplomatiques. Assez évidente. Il y a des discussions hein, régulières pour savoir. Il y a beaucoup de lobbying pour essayer que le PKK sorte de cette qualification-là, mais on en est loin. Le mouvement guléniste, à part la Turquie, le Pakistan, la Chypre non indépendante, et voilà, il n'y a aucun pays qui a accepté la reconnaissance de ce groupe comme un groupe terroriste. Mais du coup, c'est vraiment à partir du moment où il y a eu le coup d'État. Ils ont eu les armes juridiques pour dire « Nous, on estime que c'est eux qui ont fait la tentative de coup d'État. » Donc maintenant, ils les appelaient déjà l'État parallèle, ils les traitaient déjà de terroristes. Mais maintenant, ils avaient, entre guillemets, leur preuve pour dire qu'ils avaient une organisation armée, ce qui permettait de tomber dans la qualification de groupe terroriste armé et de poursuivre massivement les gens. Et ce qui est intéressant pour la Turquie... Ce qui est un peu différent des dossiers que je traite pour la Russie, etc., où on est vraiment sur de la création de faux dossiers, on arrache des pages, on en met d'autres, etc. C'est très évident. Ou l'Irak aussi. Mais la Turquie, la spécificité, c'est qu'il y a une grande ambiguïté qui se joue entre... On donne toujours l'apparence d'un état de droit. Vous avez quand même vous avez quand même un procès, vous avez le droit d'avoir un avocat, vous avez des décisions qui sont... Vous avez un système extrêmement moderne de la justice qu'on en vit tous en France. Vous avez accès aux procédures. Il y a une apparence d'état de droit. Les décisions sont motivées, etc. On pourrait avoir l'impression que ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment, je trouve, la spécificité aujourd'hui, la grande ambiguïté de la Turquie. Et souvent, les observateurs parlent d'autocratie aléatoire. Et c'est vraiment ça. Il y a encore... cette envie de montrer une face respectable et démocratique, et même à travers des institutions qui sont devenues complètement politiques et politisées.
Une chose moi qui m'avait aussi frappé, puisque on a vu les chefs d'État s'empresser de féliciter l'élection d'Erdogan, et en même temps en France il y a une réfugiée sociologue qui est Pinar Selek, donc il y avait un procès qui a été ouvert, qui a été réouvert de nouveau, puisqu'à chaque fois c'est un éternel recommencement. On est quand même un peu à front renversé.
C'est le réel politique en fait. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont travailler avec Erdogan au sein de l'OTAN. La France, les États-Unis, la Turquie, ces pays-là, ils sont des alliés au sein de l'OTAN. Mais bien sûr, il y a plusieurs méthodes de féliciter. À mon avis, c'était un peu très vite. Après, c'était très vite. Ils ont félicité rapidement, très vite Erdogan. Malheureusement, les dirigeants européens, à mon avis, pas les peuples ou les opposants, les politiques opposants. Les dirigeants européens étaient contents de ces résultats-là. Ils sont contents de ces résultats-là parce qu'ils ils ont un souci concernant les réfugiés en Turquie. Et aussi, ils connaissent très bien Erdogan, ses réflexes, sa manière de penser. Ils obtiennent parfois, ils demandent des choses et après, c'est facile à convaincre Erdogan si vous donnez quelque chose et... Et il vous donne votre demande, il accepte ça. Et je pense qu'ils sont contents, les dirigeants européens, Poutine, il est content. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les victimes en Turquie, c'est dommage en fait. Oui.
Juste un chiffre pour vous donner un peu l'idée en termes de projection de ce que les institutions turques ont comme projet politique. Il y a un chiffre qui est intéressant sur la question des prisons et des créations de prisons. Entre 2016, donc après le coup d'État, et 2021, il y a eu une augmentation de la capacité carcérale de 70%, ce qui est énorme. Et entre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, donc à partir de 2021, c'est, je crois, 37 prisons qui sont planifiées, dont une maxi-prison qui est inégalée à part aux États-Unis, de 15 000 places. Donc c'est des investissements énormes, c'est des espèces de complexes super modernes d'enfermement massif. Donc on voit le projet affiché, en tous les cas, dans les murs et dans les barbelés, c'est assez évident. La chose qui est aussi importante à rappeler par rapport aux prisons, c'est que non seulement ils créent des prisons, mais en plus ils font de la place dans les prisons pour en libérant toutes les personnes qui ont des petites peines, des infractions qu'on dit de droit commun, donc non politiques, terroristes, etc., les vols, même les stupéfiants, vous avez des libérations massives, pour faire de la place pour les opposants au sens large. Donc déjà, moi je trouve que c'est des chiffres qui sont... On pourrait dire que ça sur... qu'est-ce que nous prévoient les autorités, parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire des investissements massifs s'ils n'avaient pas derrière une volonté de politique répressive à l'image de ce qu'ils sont en train de construire. Aujourd'hui, je pense aussi beaucoup aux femmes. Il y a quand même des mots extrêmement forts, des partis alliés à l'AKP qui vont aujourd'hui prétendre à des sièges au Parlement, qui demandent des politiques vraiment extrêmement... misogynes au plus propre que je puisse dire, mais qui sont vraiment contre les femmes, pour la séparation, pour le... Enfin, voilà, il y a aussi, je pense, une partie de la population éduquée, on le sait, cherche, en dehors de la question des exilés, cherche à partir massivement, les étudiants turcs, ceux qui ont des qualifications... qui sont aussi souvent peut-être des personnes éduquées au monde extérieur, avec un esprit critique, etc. C'est des personnes qui cherchent à partir de Turquie massivement. Donc on ne peut pas prévoir l'avenir, mais a priori, en tout cas, on va vers évidemment une augmentation, comme on a vu, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, 45% d'augmentation de demandes d'asile en 2021, et on double entre 2021 et 2022. Donc ça va de plus en plus vite, ouais, forcément.
En Turquie, il y avait un dernier espoir pour les jeunes, pour les opposants. Peut-être après cette élection, ils vont partir, ils vont perdre leur pouvoir. Après la pandémie, les pays européens ont fermé les frontières très strictement. Les Syriens, les Afghans et les autres réfugiés en Turquie, ils restent là. Peut-être après un plus de la crise de l'économie, il y aura quelques problèmes sociaux aussi entre les réfugiés et les autochtones, là, spécialement en Istanbul, parce que la crise économique touche tout le monde. Et la communauté turque envisage les migrants comme une cause de cette situation.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.